19h, vous êtes bien sur Europe 1.
Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020.
Protéger les personnes âgées sans les isoler. Les protocoles seront encore renforcés dans les jours à venir dans les EHPAD. Dépistage hebdomadaire systématique pour tous les personnels alors que la situation reste fragile.
Un reconfinement qui pèse sur l'économie mais aussi sur le moral. Les conséquences psychologiques doivent être prises très au sérieux.
Les sites de e-commerce pris d'assaut aujourd'hui avant même le Black Friday. Tout ça à cause d'une console de jeu.
Et je vois laquelle. La loi sur la sécurité globale face au tollé entourant l'article 24. Le ministre de l'Intérieur calme le jeu et tentent d'arrondir les angles.
Le Japon et l'Australie unissent leurs forces contre eux, la Chine. Ils ont conclu un nouveau pacte de défense, loin d'être anodin, nous dira Didier François. Et puis des chercheurs enquêtent des odeurs du passé ou comment remonter le temps avec son nez.
C'est un beau teasing, j'ai hâte de découvrir le reportage qui va avec. La météo avec Anissa, agitée dans le sud demain, chère Anissa.
Oui, avec du vent fort en bord de Méditerranée. Il a soufflé fort aujourd'hui, il va souffler fort cette nuit et encore demain matin. Une dépression sur l'île de Beauté également au programme. Ailleurs, des conditions anticycloniques et des températures qui continuent de baisser. C'est le programme de ce vendredi et je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
D'abord donc les dernières infos concernant l'épidémie avec le point presse ce soir du ministre de la Santé, Olivier Véran.
La tension hospitalière reste forte sur le territoire. Un patient admis en réanimation toutes les 4 minutes. Malgré tout, les indicateurs épidémiologiques s'améliorent et le virus circule moins vite.
Quant à la situation dans les EHPAD, la ministre déléguée chargée de l'autonomie précise que ça va mieux que lors de la première vague. À l'époque, un établissement sur deux avait été touché. Aujourd'hui, Victor Dolande, les chiffres sont plus rassurants, mais ça reste quand même fragile.
Oui, actuellement, 1600 EHPAD sont touchés par un cas de Covid ou plus, qui représente plus d'un établissement sur 5. Les régions les plus concernées sont la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Hauts-de-France. La mortalité reste elle aussi préoccupante, 163 décès par jour en moyenne sur la dernière semaine écoulée. Mais depuis le premier confinement, il y a quand même du mieux. Les personnels qui travaillent dans ces EHPAD sont mieux armés. Ils connaissent mieux la maladie et sensibilisent davantage les personnes âgées. La ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a rappelé ensuite un deuxième risque dans ces établissements, l'isolement.
Nous savons qu'avec le risque sanitaire, l'isolement est un deuxième risque majeur. Et c'est celui que d'ailleurs vous redoutez parfois le plus, que vous viviez en établissement ou à domicile. Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020. Pour protéger sans isoler, selon les mots du président de la République, nous avons tout de suite fait le choix de ne pas suspendre les visites des proches.
Dans les prochains jours, le gouvernement va également renforcer les protocoles pour faire baisser les contaminations dans les EHPAD. Les personnels seront testés toutes les semaines. Le gouvernement a d'ailleurs commandé 1 600 000 tests antigéniques pour approvisionner les établissements. Enfin, concernant les proches, ils seront invités à se faire tester 72 heures avant leur visite, un test PCR ou un test antigénique dans la journée. Mais ce n'est pas obligatoire, ça reste une simple recommandation.
Précision de Victor Dolande du service Société d'Europe 1. Merci Victor.
Cette crise du Covid engendre, on le sait, des dégâts économiques considérables, dégâts psychologiques aussi qu'il ne faut pas négliger.
Nous voulons éviter une troisième vague, celle de la santé mentale, dit Olivier Véran. Santé mentale qui s'est dégradée, hein,
oui,
c'est vrai,
c'est vrai que les médecins constatent une augmentation importante des états dépressifs et le problème, c'est que ça risque de durer.
Et tout ça, c'est pris très au sérieux par les professionnels de santé, comme vous l'avez constaté, Stéphane Place, à l'hôpital psychiatrique Charles Perrins de Bordeaux.
Oui, dès l'annonce du reconfinement, ici à l'hôpital psychiatrique Charles Perrin, se sont présentées des personnes en détresse. Aujourd'hui, le taux d'occupation des lits de l'établissement que dirige Thierry Bier est de 100%.
Cette lame de fond, elle touche nos patients traditionnels de psychiatrie, mais aussi on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles personnes et qui souffrent de syndromes anxieux, dépressifs.
D'où la réactivation notamment d'un numéro vert de soutien psychologique.
Comité Psy 33, bonjour.
Chef du pôle urgence psychiatrique, le docteur Chantal Berger insiste sur la nécessité d'aller au-devant de ceux qui pourraient être affectés psychologiquement par cette crise.
Je fais appel aux représentants de l'entrepreneuriat, de la chambre du commerce et de l'industrie, la chambre de l'artisanat, même effectivement les commerçants et les restaurateurs, des professions qui sont impactées et vont l'être lourdement. Et moi, ce que je tiens à leur dire, c'est qu'on est là aussi pour eux, finalement, en essayant de concevoir peut-être un accès à la consultation ou aux soins psychiques qui soit facilitant.
Ne pas attendre pour parler, insiste le professeur Bruno Aouizrat.
Il vaut mieux parfois les discuter profiter de ça plutôt que d'attendre et dans ce cas-là de souffrir cette fois-ci vraiment de pathologie. Si le matin on se réveille très anxieux, on dort mal, il ne faut surtout pas attendre.
Et ne pas hésiter à consulter déjà pour commencer son médecin généraliste.
Le reportage de Stéphane Place à Bordeaux et le numéro vert de cette cellule psy dont il vous parlait, c'est le 0800 71 08 90.
Et restez avec nous car on en parle dans 15 minutes dans le grand débat du Club des idées et on vous donnera toutes les clés pour retrouver, si tant est que ce soit possible, la positive attitude. Mais oui, nous on y croit. À tout à l'heure donc pour le débat. Le pataquès autour du Black Friday, Isabelle.
Les acteurs de la grande distribution, du commerce et du e-commerce auront demain un nouvel échange avec Bruno Le Maire. Le ministre leur demande, vous le savez, de décaler d'une semaine cette opération promotionnelle.
Plusieurs enseignes comme Carrefour sont d'accord. Leclerc de son côté dit qu'il se ralliera à une démarche et elle est collective.
Et on va suivre tout ça donc demain. Ce qui est sûr, c'est que les Français sont déjà dans les starting blocks pour les achats de Noël et sans attendre, eh bien, il y en a qui ont déjà fait flamber la carte bleue aujourd'hui.
À l'occasion de la sortie de la nouvelle console PS5 de Sony, quelques jours après sa concurrente, la Xbox Series, Clément Le Saffre, c'était la folie aujourd'hui sur tous les sites de e-commerce en France.
Oui, pour ceux qui ne l'avaient pas précommandé, en fait, la PlayStation 5 était mise en vente ce matin. Alors, ça a été la ruée vers l'or puisque tout s'est passé en ligne. Il n'y en avait pas en magasin. Résultat, eh bien, beaucoup de sites n'ont pas tenu entre 9h et midi, voire 14h pour certains. Impossible de se connecter sur les sites de la Fnac, Auchan, Boulanger, Cultura, Leclerc, etc. Tous affichaient un message d'erreur. J'ai essayé, moi, d'aller sur Auchan.fr vers 11h. J'étais dans la file d'attente en 50 millième position.
Ah oui.
Rien que ça, quand on sait qu'il s'est vendu 6 millions de PS4 en France, ça donne une idée du nombre de joueurs qui veulent la prochaine, la PS5. Mais peu, eh bien, ont réussi à l'obtenir dès aujourd'hui. Sony nous a expliqué que les stocks pour le lancement étaient très, très limités. C'est bien simple, mais il n'y en a déjà plus nulle part. Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné, ni s'il le sera. Voilà le message qu'on peut lire sur la page de la PS5 sur le site d'Amazon. En ce moment, alors je vais quand même terminer par une petite note d'espoir quand même. En vue de Noël, Sony va réapprovisionner la PS5 par petites touches ici et là. Idem pour Microsoft avec la Xbox Series. Elle aussi est en rupture de stock. Mais voilà, il y aura quand même quelques consoles pour les retardataires. Simplement, il va falloir être à l'affût.
Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que vous l'avez essayé cette
PS5 ?
Oui,
j'ai essayé les deux. Oui, les deux valent le coup. C'est une super console. Si vous arrivez à en trouver une pour Noël, vous allez passer un bon Noël.
Bon, merci Clément Le Saffre du service Éco d'Europe 1.
Dans l'actualité également, la version glaçante de Jonathan Daval qui s'explique enfin sur les circonstances de la mort de sa femme Alexia. Il reconnaît lui avoir donné la mort. Il explique qu'il ne supportait plus ses reproches, que la colère de toutes ces années est ressorti ce jour-là, qu'il lui a frappé la tête contre le mur et qu'il l'a étranglée pour qu'elle se taise. Il reconnaît également avoir mis le feu pour effacer ses traces.
Le ministre de l'Intérieur corrige le tir sur sa loi de sécurité globale.
Il propose un amendement sur la liberté de la presse après la polémique, vous le savez, entourant le fameux article 24. Article qui prévoit 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour toute personne qui diffuserait des images de policiers ou de gendarmes dans le but de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique, Adrien Beck.
Oui, réunion d'urgence convoquée dans une demi-heure autour de Jean Castex. Malaise dans les rangs de la majorité, au Modem aussi. Cet article est mal ficelé, me confiait un ministre. En fait, là où ça coince, c'est qu'il ne consacre pas la liberté de la presse et fait craindre que des journalistes ne puissent plus diffuser des images de forces de l'ordre. Gérald Darmanin tient donc à l'amender, il l'a dit cet après-midi à l'Assemblée.
L'article 24 ne sera pas retiré, bien évidemment, mais qui sera complété, peut-être précisé. C'est-à-dire qu'évidemment, mais comme l'article 24 l'est déjà écrit, que la liberté de la presse est totale, mais peut-être faut-il l'écrire davantage parce que la liberté de la presse est un point important.
Voilà le ministre de l'Intérieur qui tente de calmer le jeu, même si certains marcheurs demandaient une suppression pure et simple de cet article litigieux. Tentative de clore une polémique alors que Gérald Darmanin suscite en plus de vives réactions depuis hier soir. Il avait proposé aux journalistes de se signaler aux autorités avant de suivre une manifestation, alors même que celle-ci se déroule sur la voie publique.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. L'enquête sur l'effondrement de 2 immeubles qui avaient fait 8 morts en novembre 2018, rue d'Aubagne à Marseille. Un ancien adjoint de Jean-Claude Godin à la mairie et un syndic d'immeubles viennent d'être mis en examen.
19h09, la suite du journal. On part à l'étranger. L'Union européenne toujours prise en otage par la Hongrie, la Pologne et la Slovénie qui bloquent le plan de relance européen post-Covid.
Oui, ce soir, lors de leur visioconférence, les dirigeants ont brièvement évoqué le sujet, mais la Pologne et la Hongrie ont rappelé leur opposition. Info de notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Ce sont les ambassadeurs qui vont maintenant plancher sur une éventuelle solution.
Et cette information capitale d'un point de vue stratégique, mais qui est passé un peu inaperçu, c'est vrai, le Japon et l'Australie, les deux géants du Pacifique, ont signé hier un accord de défense historique.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Cet accord, il vise en fait, Didier, à bloquer la montée en puissance de la Chine.
Absolument. Alors pour vous donner une idée de cette montée en puissance, la Chine se dote tous les 4 ans d'un nombre de navires équivalent à celui de la marine française. Et cette flotte, maintenant, elle montre ses muscles dans tout le Pacifique en s'appropriant des îlots ou des récifs qu'elle transforme aussitôt en petite base aéronavale, violant toutes les règles internationales sur la liberté de navigation. C'est la raison pour laquelle l'Australie et le Japon ont décidé de désormais coordonner toutes leurs activités militaires, donc de s'assurer que leurs systèmes d'alerte et de communication sont compatibles. Ils vont aussi organiser des manœuvres conjointes, apprendre à combattre ensemble malgré les doctrines et puis des langues qui sont quand même assez différentes. Ça veut dire aussi qu'ils peuvent devoir déployer rapidement des soldats d'un pays à l'autre, ce qui les oblige à définir toute une série de procédures juridiques et puis des règles financières. Donc ce qu'on voit se mettre en place entre Canberra et Tokyo, c'est bien une alliance opérationnelle, un véritable pacte stratégique entre deux puissance régionale majeure, mais qui ont pris conscience qu'elles ne pouvaient plus résister aux ambitions militaires chinoises si elles ne s'unissaient pas.
Ce qui est d'ailleurs une véritable révolution culturelle pour le Japon, qui n'a constitutionnellement plus d'armée depuis 1945.
Absolument, donc après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, la capitulation de l'empereur, le Japon a démantelé son armée et puis l'a remplacée par de simples forces d'autodéfense. Alors seulement depuis maintenant 5 ans et la révision constitutionnelle de 2015, ces forces de défense, d'autodéfense sont autorisées à intervenir aux côtés de troupes alliées si le Japon était attaqué. Et puis surtout, elles ont très sérieusement progressé en capacité avec un budget annuel de 43 milliards d'euros, ce qui est l'équivalent du budget français de la défense. C'est donc loin d'être négligeable, d'autant que face à la Chine, le Japon, comme l'Australie, savent pouvoir compter sur un soutien indéfectible des États-Unis et voire même sur un renfort de l'Inde. Les 4 pays ont d'ailleurs mené ensemble la semaine dernière un exercice naval de grande ampleur qui préfigure ce basculement en cours de l'équilibre stratégique mondial depuis l'Europe vers la zone Indo-Pacifique.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h.
La première visite d'un secrétaire d'État américain au Golan et dans une colonie en Cisjordanie occupée, Mike Pompeo a profité de sa tournée d'adieu au Moyen-Orient pour ancrer l'héritage de l'administration Trump en faveur de l'État hébreu. La Syrie condamne ce soir une visite provocatrice. Et puis ce soir, si vous le voulez bien, en plus d'ouvrir grand vos oreilles, on va aussi vous demander d'ouvrir grand votre nez.
Ah, on y vient.
Voilà, et d'essayer d'avoir un petit peu d'imagination quand même. Pourquoi ? Eh bien parce que figurez-vous qu'un groupe d'historiens, d'experts en intelligence artificielle, de chimistes et de parfumeurs viennent d'annoncer qu'ils allaient recréer les odeurs que l'on trouvait en Europe du 16e au 20e siècle lors d'Autriche.
Oui, c'est ça. Quelles odeurs pouvaient sentir les soldats sur le champ de bataille de Waterloo, hormis la poudre et les canons? Quelles étaient les odeurs de la révolution industrielle? Une quarantaine de chercheurs vont travailler pendant 3 ans sur ces sujets pour raconter l'histoire du point de vue olfactif, en analysant 200 000 images et des milliers de textes historiques. Pour ces recherches, l'intelligence artificielle sera capitale. L'ordinateur sera chargé de trouver dans les textes les références aux odeurs. Et puis le travail des experts ensuite commencera, explique Raphaël Troncy, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs Eurecom, membre de ce projet.
On va travailler effectivement avec des chimistes et des entreprises qui créent des senteurs, voire même avec des parfumeurs. Et donc, effectivement, à partir de recettes de cuisine, de descriptions chimiques de ces odeurs, on va essayer d'en resynthétiser un certain nombre pour les recréer.
Le projet est financé par la Commission européenne à hauteur de 3 millions d'euros et des expériences pourraient ensuite être proposées au public dans plusieurs musées d'Europe.
Et voilà, vous avez tout compris.
Et on a hâte de sentir tout ça, ça doit être absolument passionnant. Non, ça ne vous intéresse pas, vous. Bien, gardez votre masque alors, ma chère Isabelle. À demain, même lieu, même heure, à partir de 18h, la météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce une fin de semaine mouvementée sur l'île de Beauté.
Oui, le temps est agité demain en Corse, en Haute-Corse précisément, avec des pluies soutenues, du vent fort jusqu'à 100-110 km/h sur le littoral, de la neige également sur les reliefs à partir de 1300 mètres. C'est vraiment une journée où il va falloir éviter au maximum de sortir demain. Sur la moitié nord du continent. Demain, nous aurons des brouillards et des nuages bas qui vont se dissiper au fil des heures. Sur le massif central, les Alpes et le Jura, nous aurons quelques flocons, là aussi à partir de 1200 mètres d'altitude. Et puis dans l'après-midi, les conditions anticycloniques vont permettre au soleil de s'imposer. La journée est donc dans l'ensemble assez agréable, sauf en Bretagne et en Normandie où là le ciel est un petit peu plus couvert. Au bord de la Méditerranée, c'est grand soleil mais toujours du vent. Le Mistral et la Tramontane qui ont soufflé fort aujourd'hui et qui continuent de souffler demain. Les températures, elles continuent de baisser avec des gelées en Auvergne ou dans le Grand Est avec moins 1 Charleville-Mézières, 2 degrés à Metz, 3 à Lille, 4 à Paris demain matin, 7 à Biarritz et 10 à Nice. Et puis dans l'après-midi, seulement 7 à 18 degrés. 7 pour Saint-Étienne, 9 à Paris, 12 à Lorient et 17 à Nice sur la Côte
17
d'Azur.
17 à Nice, formidable. Ouais, j'aimerais habiter à Nice. Ils ont de la chance, les amis niçois. Merci Anissa.
Bonne soirée.
À demain. Europe 1.